Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale, émission qui donne le coup d'envoi de la nouvelle saison. Aujourd'hui, donc, pour cette première, nous revêtons nos habits d'apparat et recevons un grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons Bruno Mettling, le patron d'Orange Afrique. Bonjour Bruno Mettling.
Bonjour messieurs.
Bruno Mettling, vous êtes inspecteur de finances, donc issu de la haute administration française. Vous avez exercé de nombreuses responsabilités dans des cabinets ministériels tout au long de votre carrière. Puis vous êtes passé dans le secteur bancaire et enfin à Orange, où vous étiez jusqu'au mois de mars 2016, le DRH, le directeur des ressources humaines, avant d'en devenir le directeur général pour l'Afrique. Le privé, c'est mieux que le public ?
Je pense que les deux m'ont beaucoup apporté et j'ai cette chance d'avoir exercé une quinzaine d'années dans le secteur public avec... Vous l'avez rappelé, des missions extrêmement importantes auprès de grands ministres.
Par exemple
Michel Delbarre sur le secteur des transports, le premier ministre de la ville, on l'a oublié, avant Bernard Tapie, après de Dominique Strauss-Kahn, où j'étais chargé des restructurations industrielles du pays. Donc 15 années absolument passionnantes qui m'ont sans doute beaucoup formé, beaucoup structuré, beaucoup appris.
Surtout à gauche ?
Plutôt à gauche, plutôt à gauche effectivement. Et puis ensuite une quinzaine d'années au profit de l'entreprise, parce que c'est vrai que j'ai ressenti ce besoin d'être peut-être moins dans l'approche globale et beaucoup plus... dans l'activité concrète, d'abord dans le secteur bancaire, vous l'avez dit, dans le domaine du retail, où j'ai beaucoup exercé, notamment dans le domaine des ressources humaines. Et puis ensuite, à la demande de Stéphane Richard, j'ai rejoint au moment de la grande crise sociale d'Orange, j'ai rejoint cette entreprise.
Après la vague de suicide.
Après la grave crise sociale qui était effectivement nommée crise des suicides, c'était un sujet majeur. J'ai rejoint et j'ai contribué aux côtés de Stéphane Richard à l'apaisement de cette entreprise. Et puis à l'issue de cette première mission, Stéphane Richard m'a demandé de prendre la responsabilité. J'avais envie de revenir à l'opérationnel, comme j'avais été l'opérationnel des banques populaires aux caisses d'épargne. Et il m'a proposé de prendre la responsabilité de l'Afrique et du Moyen-Orient.
C'est une grosse responsabilité.
C'est une très grande responsabilité pour deux raisons. D'abord parce qu'on est sur un secteur, les télécommunications en Afrique, qui est un enjeu majeur, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis ensuite parce que Orange est le seul opérateur au monde qui a fait le choix d'être assis sur deux piliers. Un pilier Europe, avec la place particulière de la France, et puis un pilier Afrique-Moyen-Orient, qui est son deuxième pilier.
Alors Bruno Mettling, outre vos fonctions au sein d'Orange, vous êtes par ailleurs président du Conseil des chefs d'entreprise du MEDEF pour l'Afrique de l'Ouest, et depuis le mois dernier, co-président d'Africa France, la fondation créée sous l'impulsion de Lionel Zinsou, l'ancien Premier ministre béninois. Et vous êtes en voie d'africanisation accélérée ?
Je crois que la responsabilité des dirigeants de grands groupes comme les nôtres, elle est pas seulement évidemment d'exercer l'activité qu'est la leur au quotidien, mais aussi de participer à ce débat autour du développement économique, autour de ces enjeux majeurs entre la France et l'Afrique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais...
Certainement.
Vous savez, on a perdu quand même les entreprises françaises, on le dit pas assez, ont perdu 50% des parts de marché en 15 ans en Afrique. Donc il faut que les responsables que nous sommes, évidemment, organisions, prenons notre part de responsabilité pour participer à ce développement.
Alors au cours de cette émission, Bruno Mettling, nous allons vous interroger avec Julien Clémenceau sur le développement d'Orange sur le continent africain, sur les nouveaux terrains vers lesquels vous allez et sur la vision que vous-même, nouveau sur le continent, avez de cette région du monde.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Une première question de Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
On évoquait à l'instant votre processus d'africanisation depuis votre nomination à la tête des filiales africaines d'Orange. Vous avez effectué plus de 30 voyages sur le continent. Qu'est-ce qui vous a marqué concernant ces économies africaines ?
C'est deux choses. La première, c'est l'extrême diversité. Je trouve que quand on parle évidemment il y a des économies africaines, les situations à l'intérieur du footprint d'Orange sont extrêmement diversifiées. Donc je trouve que...
Le footprint ?
Oui, c'est-à-dire en gros l'ensemble des lieux dans lesquels Orange est implanté, dans les 21 pays de la zone, les situations sont extrêmement diversifiées. Vous avez des pays que l'on connaît avec des croissances extrêmement fortes, qui sont des vraies locomotives, hein, évidemment, dans ce qui concerne Orange, en particulier le cas autour de la Côte d'Ivoire, autour du Sénégal. Et puis vous avez des difficultés, des situations qui sont plus difficiles, des pays autour du Niger, pour prendre le Niger par exemple, sur lesquels évidemment la situation est très contrastée. Donc la diversité, y compris dans le développement du secteur des télécoms, et la première chose qui vous frappe.
Justement, le cours des matières premières a beaucoup baissé ces deux dernières années. Bon, là, il y a un petit frémissement vers le haut et on pense que ça va repartir. Mais est-ce que vous notez un impact important sur les économies africaines de cette baisse des matières premières? Et est-ce que, à vos yeux, les pays africains sont toujours des pays émergents?
Écoutez, d'abord, la baisse, on la ressent. Il faut rappeler qu'en 2016, avec 1,3% de croissance, c'est la plus faible taux de croissance de l'Afrique de ces 20 dernières années. Donc 2016 est une année très difficile pour l'Afrique. Et évidemment, notre activité, même si Orange s'en tire plutôt mieux avec 2,4% qu'un certain nombre de ses compétiteurs, même évidemment notre niveau de notre activité, qui est extrêmement lié à l'évolution économique, on a ressenti ce ralentissement d'Afrique. Et c'est vrai qu'on ressent depuis le début de l'année cette reprise. On la ressent dans l'évolution évidemment des usages, dans l'évolution, j'allais dire, des demandes des entreprises. Et donc, de ce point de vue, pour répondre à votre question sur les pays émergents, c'est vrai que beaucoup des pays sont encore dans une logique de consolidation de leur économie. Le sujet pour moi numéro un, hein, qui doit être vraiment au cœur des préoccupations et des responsabilités des uns et des autres, c'est comment cette croissance qui est là depuis de nombreuses années, elle s'est ralentie mais elle repart, comment la rendre plus inclusive au bénéfice des populations. Pour moi, c'est le cœur du sujet que nous sommes confrontés.
On l'a dit, vous êtes en voie d'africanisation, vous sillonnez l'Afrique de manière incessante pour ces nouvelles fonctions. Mais plus largement, vous avez, dans votre jeunesse, fréquenté l'Afrique. On l'a peut-être pas dit au début de l'émission, vous avez effectué des missions il y a très longtemps.
Absolument.
Est-ce que l'Afrique que vous rencontrez aujourd'hui est la même, ou est-ce qu'elle est très différente, au-delà de la simple croissance économique, que celle que dont vous aviez gardé le souvenir?
Elle est extrêmement différente. Elle est extrêmement différente autour de 2-3 enjeux. Elle s'est profondément urbanisée. Le deuxième élément, c'est que la croissance économique a quand même marqué ses effets. On trouve évidemment une classe moyenne qui émerge en Afrique. C'est quelque chose que tout le monde signale, mais c'est une vraie réalité.
Mais ça, vous la côtoyez, cette
classe moyenne africaine? Ça, on la côtoie. On lui apporte des équipements. On voit bien qu'elle est extrêmement présente, qu'elle demande d'outils de qualité pour la communication. Donc elle est là. Cette classe moyenne, on la voit, elle est extrêmement présente. Donc c'est un des changements importants de l'Afrique. Je crois que il y a un décollage économique qui ne peut plus être contesté. À l'inverse.
Vous savez que ça l'est.
Alors, en tout cas, nous, on le voit et on le constate. À l'inverse, la vraie question, et c'est celle qui notamment est au cœur de tous les échanges que je peux avoir avec les autorités, les nombreuses autorités que j'aime bien rencontrer, c'est comment faire en sorte que cette croissance soit plus inclusive, comment faire en sorte qu'elle génère plus d'emplois, et à quelles conditions, j'allais dire, les peuples pourront mieux bénéficier de cette croissance que ça peut être le cas aujourd'hui.
Julien Clemenceau.
Est-ce qu'il y a un pays qui, selon vous, incarne cette possibilité d'une croissance inclusive dans les pays dans lesquels vous êtes présent?
Il y a des très beaux succès.
Lesquels?
J'ai un exemple tout simple. Par exemple, la façon dont Maurice a construit à travers son réseau de communication une stratégie de développement économique qui permet d'accueillir des emplois et développer les emplois, quelque chose qui est extrêmement intéressant. La manière dont le Maroc génère aussi une croissance économique qui essaye évidemment de développer l'emploi. Donc il y a des vrais succès, le Sénégal, notamment, j'allais dire, dans les zones rurales, où il a développé un certain nombre d'activités. Donc voilà. Et puis, il reste beaucoup à faire, et ça c'est vrai pour tous les pays, pour que, notamment grâce au numérique, et ça c'est un point que j'aimerais vraiment pouvoir avoir l'opportunité de développer pour vos auditeurs, comment le numérique peut permettre justement de favoriser cette croissance inclusive pour des pans entiers de l'économie.
Justement, au niveau de l'économie, est-ce que il y a un modèle entrepreneurial africain? Est-ce qu'il y a une manière de gérer les entreprises qui est propre au continent?
Alors d'abord, il y a un modèle entrepreneurial africain incontestable qui se développe. Vous avez des jeunes entrepreneurs qui viennent d'ailleurs bousculer les organisations économiques traditionnelles, les grandes entreprises traditionnelles qui se développent en Afrique. Donc ça, c'est incontestable, et en particulier très concentré aujourd'hui sur le secteur financier et l'assurance, mais on voit vraiment des grandes entreprises naître, des grandes entreprises panafricaines.
Pourriez-vous en citer quelques-unes?
Oh ben, j'allais dire, la Bank of Africa est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer. Donc il est incontestable que vous avez des grandes entreprises africaines et panafricaines qui se développent. Sur la manière de gérer les entreprises, c'est vrai qu'il y a à la fois des points communs à toutes les entreprises au monde, et il y a des points très spécifiques. Le point qui, moi, me semble extrêmement spécifique à l'Afrique, c'est la manière dont on développe des logiques, on s'appuie sur les traditions de coopération, d'échange, pour développer des pratiques managériales qui soient les plus positives possibles. Et puis la deuxième, pour une entreprise comme Orange, qui est une compagnie, j'allais dire, internationale française, c'est la manière dont on revisite profondément le fonctionnement pour faire en sorte qu'on ait des vrais entreprises dans chacun de nos pays avec des vrais dirigeants d'Afrique. Et c'est vrai qu'une des fiertés d'Orange, vous le savez, hein, c'est qu'elle a 20 000 collaborateurs dans l'ensemble de la zone. Elle a 50 expatriés, il y en avait 100 il y a 3 ans, avec des très grands dirigeants dont on peut citer les noms, mais qui sont extrêmement connus. Alioune Ndiaye au Sénégal, Mamadou Bamba en Côte d'Ivoire, ou Elisabeth Menou au Cameroun. Donc des très grands dirigeants issus de cette diaspora, de cette culture d'entreprise qui symbolise évidemment cette nouvelle génération d'entrepreneurs africains.
Alors, vous faites dans vos propos sans cesse l'aller-retour entre la France et l'Afrique. Et dans une tribune que vous avez récemment publiée dans la presse, vous estimiez que la France devait tourner la page de la France-Afrique et que ça devait être une des tâches du président nouvellement élu en France, Emmanuel Macron. Alors c'est surprenant parce qu'on croyait que cette page-là, elle était tournée depuis belle lurette. Vous, dans vos rencontres, dans vos pratiques, dans les phénomènes auxquels vous faites face dans votre rôle de dirigeant d'Orange, vous avez toujours affaire avec cette France-Afrique, elle est toujours à l'œuvre. Parce que la France-Afrique, bon, sont des réseaux obscurs, des mallettes d'argent qui circulent. Ça existe toujours ?
Non, quand j'ai fait allusion évidemment à la France-Afrique, je ne pensais pas à ça. Je pensais plutôt à une certaine culture qu'ont eu parfois et qu'ont parfois encore de plus en plus rarement les entreprises françaises, consistant à considérer que l'Afrique est une sorte de chasse gardée dans laquelle leurs positions sont acquises et qui ne se renouvellent pas assez, y compris en termes de management. Je fais allusion au fait de faire émerger. Les dirigeants africains ne se renouvellent pas assez dans leur approche, qui considèrent par exemple qu'on peut se contenter d'adapter à la marge les constructions des procédures, des process, des matériels qui ont été inventés pour l'Europe pour répondre aux besoins des populations africaines. Donc c'est ça que moi j'appelle encore les restes de la France-Afrique en termes économiques. C'est vrai qu'il faut tourner cette page et qu'il faut, j'allais dire, définitivement s'appuyer sur les réalités de la richesse de ce continent pour développer sa stratégie.
Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises françaises qui ne se sont pas adaptées à cette nouvelle donne africaine.
Écoutez, si on a perdu 50% de parts de marché en 15 ans, c'est qu'on a sans doute un problème aussi d'adaptation à cette nouvelle réalité africaine. Ce n'est pas le cas d'Orange. Vous savez qu'Orange a plutôt renforcé ses positions ces dernières années. Mais si les entreprises françaises ont perdu de telles positions, il y a sans doute des réflexions à conduire. Par exemple, c'est un des points que je suis d'attention, il faut profondément réformer sans doute la manière dont les entreprises françaises répondent à un certain nombre d'appels d'offres, notamment en termes de conditions de financement. Il est clair que des entreprises, on le sait bien, chinoises, turques ou marocaines, ont rencontré des très beaux succès, des très grands succès contre les entreprises françaises parce que sans doute le process global, la qualité du projet n'est pas en cause, mais plutôt les modalités d'accompagnement et de financement de ces projets n'a pas forcément été adaptées.
Donc c'est pas ça qu'il faut répondre.
C'est-à-dire que concrètement, il faut sans doute réfléchir à des dispositifs qui fassent qu'on simplifie nos procédures, qu'on est beaucoup plus présent dans les délais par rapport aux attentes et des peuples et des dirigeants de ces pays dans la réponse qu'on fait à des demandes d'appel d'offres, par exemple. On est parfois encore un petit peu compliqué.
Un peu compliqué, un peu lent.
Un peu bureaucratique, absolument.
Parfois un peu trop cher,
mais ça peut expliquer évidemment une part des éléments. L'enjeu de la compétition et de l'implantation, par exemple, d'Orange en Afrique, en développant évidemment les compétences sur place, en faisant en gros qu'on puisse piloter un certain nombre de pays depuis des hubs qu'on a constitués en Afrique. Hein, vous le savez, le Sénégal, par exemple, la Sonatel au Sénégal conduit non seulement l'activité au Sénégal, mais également en Guinée. La Côte d'Ivoire conduit les activités non seulement, j'allais dire, en Côte d'Ivoire, mais au Burkina Faso, etc. On pilote opérationnellement, depuis des centres en Afrique, l'activité. Ça, c'est profondément nouveau.
Vous êtes en contact avec de nombreux gouvernements, sans doute, de par vos fonctions. À quel niveau se déroulent ces entretiens ? N'êtes-vous pas vous-même un acteur de cette France-Afrique du passé ?
Écoutez, si je me suis engagé aux côtés de Lionel Zinzou dans Africa France, qui était une façon effectivement de réfléchir aux relations économiques entre l'Afrique et la France, en renouvelant, avec le petit clin d'œil, hein, profondément les codes de fonctionnement, c'est parce que j'ai cette conviction. Et donc, c'est vrai que je suis amené à rencontrer, de par mes fonctions, les plus hautes autorités des pays.
Donc, les chefs d'État, de gouvernement.
Les chefs d'État, de gouvernement, les premiers ministres, voilà, et les ministres des télécoms, les régulateurs aussi, ça fait partie, évidemment, du travail important d'un dirigeant du secteur des télécoms. Donc, je suis amené à les rencontrer très souvent, et c'est vrai que la posture que j'essaye d'avoir est une posture de profonde humilité devant l'ampleur de leurs tâches. Les difficultés qui sont les leurs, et certainement pas celles d'une entreprise qui considère triomphante, qui considère que sa situation est acquise de par ses caractéristiques historiques ou ces enjeux-là. C'est par la qualité
ou
du service.
Par le rôle qu'elle joue dans l'économie.
C'est par le rôle qu'on joue dans l'économie, par les apports que l'on fait, par la qualité du service qu'on délivre, par notre capacité à trouver les bons équilibres entre les attentes des États et puis notre travail, mais aussi à travers la capacité à dire les choses parfois, les choses fortement, pour développer des bons équilibres, que ça se joue.
Justement, tout à l'heure, vous faisiez état des demandes des gouvernements, et malheureusement, en Afrique, on constate que trop souvent encore, Internet est parfois coupé pour des raisons politiques. Ça a été le cas au Cameroun, ça a été le cas en RDC, deux pays où vous êtes présent. Quand ça se passe, quand un gouvernement s'adresse à vous pour exiger la coupure du signal, est-ce que vous obtempérez, je dirais, le petit doigt sur la couture du pantalon, ou est-ce que vous renaclez, vous essayez d'expliquer, est-ce qu'il y a un dialogue? Comment on fait dans ces cas-là? Au Cameroun, c'était une crise très grave, très longue, dans la partie anglophone.
Écoutez, la première des éléments, c'est d'être clair sur les responsabilités de qui fait quoi. On ne peut pas dire qu'il faut tourner la page définitive de la France-Afrique et considérer, par exemple, qu'une entreprise comme Orange a apprécié, à la place des autorités, les conditions sur les enjeux aussi importants que peut l'être la sécurité ou l'appréciation d'une crise sociale. Je crois qu'il faut respecter le rôle de chacun des acteurs. Nous avons une licence. Nous exerçons dans tous ces pays par le cadre d'une licence d'exploitation qui nous est donnée. Cette licence qui fixe les règles du jeu entre un opérateur et les pays fixe clairement la possibilité pour les États, pour des raisons, j'allais dire, qu'ils ont à apprécier dans leur responsabilité, de demander l'interruption du service. Nous n'avons pas à nous substituer, encore une fois, je le dis très fortement avec une grande conviction. Par contre, il faut que le cadre légal, que la clarté de la demande à un exploitant soit claire. Ce qu'il faut, c'est évidemment, et ce qui a été le cas dans les deux exemples que vous citez, que nous soyons évidemment dans les dispositions formelles qui respectent encore une fois les conditions réglementaires pour interrompre le service et que les États assument évidemment les enjeux de cette décision.
Julien.
Emmanuel Macron parle régulièrement de l'Afrique, mais par les thèmes qu'il aborde, l'Afrique semble d'abord être une source de menaces terroristes ou de problèmes migratoires. C'est une image négative que véhicule le chef de l'État et qui renvoie à l'Afrique quelque chose qui n'est pas très positif et qui ne dessert peut-être les entreprises françaises, non ?
Écoutez, je crois d'abord qu'il faut être réaliste et quand, comme moi, on a l'occasion de voyager beaucoup en Afrique, il ne faut pas sous-estimer l'enjeu sécuritaire. C'est une question extrêmement importante et il est tout à fait normal que ce grand partenaire de l'Afrique, qu'est la France, fasse de cette question un point important. Le deuxième enjeu, je crois que tout le monde converge, et le président Macron a eu l'occasion de le rappeler, sur le fait que la clé, une des grandes clés de réponse à ces problèmes aussi bien migratoires que de sécurité, c'est le développement économique.
Et c'est ce Mais c'est moins présent dans le discours du président Macron.
En tout cas, ça doit l'être. Ma conviction, c'est que ça doit l'être parce que c'est la clé commune.
C'est un conseil que vous lui adressez.
Oh, je ne me permettrai pas de donner des conseils à quelqu'un qui a eu le parcours que l'on sait. Mais je pense profondément, et je sais que c'est sa conviction pour avoir eu l'occasion d'en parler avec lui, le développement économique. Bien sûr, il faut gérer les crises, bien sûr, il faut gérer l'immédiateté. Mais le fond de la réponse à ces problèmes, c'est le développement économique, un développement équilibré, inclusif pour les populations et, encore une fois, le développement des services qui sont offerts.
Mais souvent, on dit que le manque d'entrain des entreprises françaises à aller en Afrique, c'est une mauvaise appréciation du risque, une surestimation du risque. Quand on parle de l'Afrique toujours en termes négatifs, ça incite pas non plus les entreprises françaises à y aller et à tenter de s'y faire une place.
Vous savez, il y a beaucoup d'opportunités d'échange avec les entreprises françaises. Et moi, une partie de mon rôle, c'est de rencontrer des petites et moyennes entreprises qui souhaitent investir en Afrique. Je crois qu'il y a deux risques à éviter. Le premier, évidemment, c'est celui de l'afro-optimisme BA, qui consisterait à sous-estimer les enjeux et les précautions qu'appelle un pays comme l'Afrique. Quand on a une grande entreprise comme Orange, jeter des moyens
qui sont
les
siennes.
C'est un grand continent, pardonnez-moi. C'est vrai, quand une entreprise comme Orange, avec les moyens juridiques, financiers qui sont les nôtres, se développer en Afrique, c'est une chose. Quand on est une petite et moyenne entreprise, il faut aussi bien apprécier les choses. Pour autant, je veux dire ici devant vous que tout le diagnostic stratégique qu'Orange a fait il y a 20 ans, quand nous avons démarré et accéléré, quand il y avait que 6 millions de clients Orange en Afrique, c'était il y a 20 ans.
En 20 Contre ans, on est combien plus de 100 millions.
On est à 130 millions de clients aujourd'hui. Donc ce choix stratégique que nous avons fait il y a 20 ans, que peu d'entreprises françaises faisaient à l'époque, de grandes entreprises françaises, ce choix s'est avéré un choix gagnant. Et ce choix gagnant-là, j'allais dire, j'invite à le faire à la fois dans le sérieux et les précautions qu'appelle évidemment un continent de cette dimension, avec ses spécificités quand on est une entreprise européenne, mais à l'inverse, avec l'enthousiasme que requiert la dynamique qui est celle de l'Afrique et toutes les projections que nous avons et qui montrent bien que ce sera le continent clé pour la croissance du monde demain.
Bruno Melting, on arrive à la fin de la première partie de cette émission, de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, et on va se retrouver dans trois petites minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale, aujourd'hui dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Nous recevons le patron d'Orange Afrique, Bruno Mettling. Bruno Mettling, au cours de la première partie de l'émission, nous avons vu quelle était l'ambiance économique générale dans laquelle Orange se développait en Afrique, 130 millions d'abonnés à votre réseau téléphonique, et quel regard vous portiez sur le continent. Tournons-nous maintenant vers des questions peut-être plus opérationnelles. Vous avez succédé à Marc Renard, qui a été plusieurs fois au micro où vous êtes aujourd'hui, et qui a énormément développé Orange en Afrique. Vous avez donc, je le disais, 130 millions d'abonnés. En 2016, Orange a fait l'acquisition d'opérations au Burkina Faso, en Sierra Leone et au Liberia. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, votre N+1, comme on
patron.
Dit, votre patron, vous a donné carte blanche pour étendre la présence du groupe sur le continent. Est-ce que vous allez faire, même peut-être à ce micro, de nouvelles annonces sur de nouvelles implantations?
Donc Stéphane Richard, et c'est à lui de répondre, quel soit le degré de confiance qu'il a en moi, ne me donne pas carte blanche, c'est pas comme ça que fonctionne une grande entreprise cotée pour développer, non. L'idée c'est qu'Orange est dans une logique de développement effectivement en Afrique, et je l'ai dit et je le répète, au développement, formidable potentialité de ce continent. Pour autant, il faut savoir évidemment, par rapport à un métier qui peut être parfois exigeant et difficile, il faut savoir évidemment définir des priorités, et la priorité stratégique est celle d'Orange, qui est celle que Stéphane Richard a présentée au groupe, c'est aujourd'hui, c'est de la consolidation. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire intégrer les nouveaux pays que nous avons acquis, et bien les intégrer, pas forcément multiplier les acquisitions au risque de mal réussir celle-ci.
Qui trop embrasse mal étreint,
exactement. Et de ce point de vue, je veux simplement vous donner une indication. Ce qui se passe sur les trois pays que vous avez cités, qu'on a l'année dernière, est assez formidable, puisque ces trois pays représentent 7% de la base de nos revenus.
Le Burkina, la Sierra Leone et le Liberia.
Et le Liberia, 7% de la base de nos revenus, mais 30% de la croissance de notre chiffre d'affaires. Autrement dit, le fait d'être arrivé dans ces pays, d'avoir développé la méthode d'Orange, et vous avez parlé de mon prédécesseur, Dieu sait, c'est Marc Renard, il a beaucoup œuvré en ce sens-là, le fait d'avoir investi dans les réseaux de qualité, c'est traduit par le fait que ces trois pays représentent 30% de la croissance de nos revenus au premier semestre.
Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous gagnez beaucoup d'abonnés?
Ça veut dire qu'on gagne beaucoup d'abonnés. Alors, c'est pas des abonnés, vous savez, c'est prépayé en Afrique. On gagne effectivement beaucoup de clients en Afrique, peut-être dans ces trois pays. Et deuxièmement, que le service Orange et le rebranding, le fait de passer sous marque Orange, a créé une dynamique dans ces pays-là, une ouverture, plus un service de qualité qui fait que très vite, puisque là, je ne vous parle pas de quelque chose qui s'est passé sur 3 ans ou 4 ans, je parle de quelque chose qui s'est passé en moins d'un an, la contribution, le décollage de ces trois pays en termes d'Orange, est tout à fait remarquable.
Julien Clémenceau.
Une question importante, c'est la baisse des prix des communications qui incite les opérateurs télécoms à favoriser le développement d'Internet. Où en est Orange dans l'évolution de son modèle économique et dans la montée en puissance d'Internet?
Je voudrais prendre un exemple concret pour vos auditeurs, parce que sans ça, on a toujours l'impression qu'on réaffirme des choses. Voilà. Au Sénégal, on a baissé les prix d'Internet fixe de 15% et les prix du mobile de 24%. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça au Sénégal? C'est tout simplement parce qu'au Sénégal, grâce à l'arrivée de la 3G, de la 4G, il y a un développement de l'usage à l'Internet qui permet de concilier les contraintes d'un opérateur qui doit investir des sommes considérables. Orange investit chaque année en Afrique 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Donc c'est des sommes considérables pour développer les réseaux 3G, 4G, pour développer la fibre dans les grandes métropoles. Ce sont des investissements considérables. Donc face à ces investissements, évidemment, il y a des coûts. Il est normal qu'un opérateur économique comme Orange trouve un équilibre économique à l'occasion de son développement. Mais quand cet équilibre est là, quand les dynamiques de développement du réseau le permettent, il faut aller vers le juste prix. Et le juste prix, la grande attente, c'est de savoir baisser le prix unitaire de l'Internet pour favoriser le développement. Et à l'arrivée, tout le monde s'y retrouve. Le client, parce qu'il consomme plus Internet, mais il paye moins cher, j'allais dire, le coût unitaire de l'accès à l'Internet. Les entreprises, parce que l'effet volume, comme disent les spécialistes, compense la baisse des prix que vous avez opéré. Mais il y a un facteur qui est déterminant, parce qu'on sent une limite. Ce sont les politiques fiscales des États. Et là, je ne peux pas être présent chez vous aujourd'hui, ne pas dire que nous avons une vraie difficulté en la matière. Dans trop de pays d'Afrique, les pays de la fiscalité empêchent ou est un frein, en tout cas, à la baisse de ces prix.
On va en parler tout à l'heure, mais d'abord une autre question de Julien Clémenceau.
Avant tout, on aimerait revenir sur le conflit qui peut y avoir entre les géants d'Internet, Facebook, Google, qui apportent les contenus, et vous avez les tuyaux. Et comme vous l'expliquiez, vous êtes contraint d'investir toujours plus dans vos réseaux pour améliorer la connexion. Est-ce que vous avez définitivement perdu cette bataille du partage des revenus entre les géants d'Internet et les opérateurs? On a l'impression que c'est le cas.
Pas en Afrique.
Pas en Afrique.
Pour les raisons que je vais développer dans les éditeurs. Et je pense que le sujet est quand même encore un peu équilibré dans le reste du monde. Mais pourquoi? Parce que, vous avez raison de le dire, la première des missions des opérateurs de téléphonie, c'est la connectivité, de transporter la voix, les SMS hier, l'Internet aujourd'hui, la data, les données. Donc, pas de Google, pas de Facebook, aucun des grands over the top qu'on les appelle.
Aucun des grands?
Des grands acteurs de l'économie mondiale que vous avez cités, Amazon, Google et autres, sans opérateurs. Et ça reste vrai dans tous les pays du monde. Le deuxième sujet, c'est le partage de la valeur. C'est vrai que ces grands acteurs sont confrontés en Afrique au fait que le modèle qu'ils ont déployé sur l'ensemble des continents avec une vraie efficacité, ce modèle se heurte à des réalités en Afrique qui rendent des choses plus difficiles pour eux.
Lesquelles? Quelles réalités?
La réalité, par exemple, c'est celle des réalités douanières qui font que les grands entrepôts que vous consolidez d'un endroit avec des libertés de circulation des marchandises n'est pas acquis.
Donc là, l'absence vous parlez de
Par exemple, si je parle pour Google, c'est l'absence évidemment de cartes bancaires qui permet de payer ou de modèles publicitaires qui permet évidemment suffisamment puissant pour financer leurs investissements, parce que vous connaissez les principes, hein, le modèle, c'est qu'ils se financent soit par la commande à distance, avec la livraison assurée, ça c'est le cas pour Amazon, soit à travers les modèles publicitaires. Donc, ils n'ont pas, l'Afrique, dans ses réalités d'infrastructure aujourd'hui, n'offre pas les mêmes possibilités de développement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents, mais ils ont besoin absolument d'opérateurs comme Orange, qui ont un système de facturation à travers le paiement sur mobile, qui ont un réseau de proximité qui permet évidemment d'assurer la proximité qu'ont le plus grand mal à réaliser. Et puis, troisième enjeu, ils sont dans une logique, en Afrique en tout cas, c'est ce qu'on vit, de ce que j'appelle moi, de ce que la compétition, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une logique de compétition, à charge pour les opérateurs de développer des nouveaux services, mais aussi de coopération, parce qu'il est clair que nous avons besoin de Facebook, nous avons besoin de Google, l'Afrique a besoin évidemment et doit avoir un accès à l'ensemble de ces services-là, mais dans des conditions que je crois plus équilibrées, pour les raisons que j'ai exposées, que celles à laquelle on a pu assister. Donc il y a des logiques de coopération qui doivent se mettre en place, des logiques de coopération équilibrées.
Alors il y a un mot que vous venez de prononcer qui est le mot « service », qui est probablement un mot important dans votre évolution. Vous êtes en train de vous muer peut-être de simple opérateur de télécom en générateur, en opérateur de service, n'est-ce pas? Est-ce que pour ça, vous vous appuyez sur les startups africaines? Est-ce que c'est... Ça fait partie de votre modèle de développement. Est-ce que c'est important de s'appuyer sur le tissu économique et industriel local?
Dans votre question, il y a deux grands enjeux. Et je me permettrai de répondre à chacun d'entre eux. Il y a peut-être le message le plus important que je passe toutes mes journées à partager avec les dirigeants, avec les responsables et à travers vous, à travers vos éditeurs. Le grand enjeu pour les opérateurs de téléphonie, c'est passer d'une logique où nous nous contentions de transporter
La voix, les data,
etc., dans les tuyaux, comme les a appelés M. Clémenceau il y a quelques instants, à une logique de service. Et l'exemple le plus manifeste, c'est le paiement sur mobile, où les opérateurs ont apporté un service absolument déterminant pour l'Afrique, grâce au paiement sur mobile, qui permet évidemment cette fameuse inclusion bancaire que le système bancaire africain n'autorisait pas. Donc c'est un enjeu majeur d'aller vers un service. Donc c'est connu à travers le paiement sur mobile, 11 millions de clients d'Orange Monnaie, 11 millions de clients actifs d'Orange Monnaie qui utilisent Orange Monnaie chaque mois, donc c'est assez énorme. Mais à côté de ça, il y a des nouveaux domaines et au risque de surprendre vos auditeurs, je veux dire ici que nous réfléchissons et nous travaillons à devenir un fournisseur d'électricité en zone rurale. Nous avons 400 000 agriculteurs maliens qui consultent sur leur mobile.
Attendez, comment ça va fonctionner? Comment Orange va devenir fournisseur d'électricité, producteur d'énergie et fournisseur d'électricité?
Je prends un exemple concret, si vous le permettez, qui est celui de l'agriculture. Comment est-ce qu'Orange rend des services aux agriculteurs? Ça semble pas évident. Orange a mis sur le mobile des applications mobiles qui permettent aux agriculteurs maliens d'avoir des renseignements sur la météo. Pour ceux qui sont éleveurs, d'avoir des renseignements sur les concentrations de cheptel pour aller dans les endroits où il n'y a pas trop...
Mais sur l'électricité, comment vous allez devenir...
Pour l'électricité, autre exemple, il existe aujourd'hui, grâce aux révolutions technologiques, des kits qui permettent effectivement, en zone rurale, là où il y a très peu de chances qu'arrivent rapidement des réseaux d'électrification, qui permettent d'apporter l'électricité, ce besoin élémentaire, aux populations rurales, pour qu'elles puissent avoir, elles aussi, cette électricité. Donc ça, c'est des kits solaires. Et pourquoi c'est Orange qui le participe? D'abord, il le fait en partenariat, et c'est la réponse à votre question. Il le fait avec des entreprises qui développent, évidemment, ces réflexions sur l'énergie répartie, sur ces kits solaires, qui les fabriquent, qui les construisent. Et grâce à ce partenariat, la facturation se fait sur le Orange Monnaie. Donc c'est grâce au paiement sur mobile qu'on peut facturer les services qui sont rendus. Et enfin, grâce au réseau de distribution, Orange a plus de 700 000 réseaux de distribution en proximité qui permet évidemment d'assurer l'interface et la proximité avec ses clients.
Mais on a l'impression que vous êtes en train de muter totalement de système économique que vous vous préparez à produire de l'électricité, que vous allez devenir un opérateur de beaucoup d'autres choses. On peut imaginer que, par exemple, demain, vous citiez vos applications pour les agriculteurs maliens, que demain, vous serez un intermédiaire boursier pour acheter et vendre des matières premières. C'est dans les tuyaux, dans vos têtes.
Donc, dans nos priorités absolues, il y a les nouveaux services qu'on peut apporter aux populations. Et je vous donnais l'exemple du Mali, les agriculteurs maliens ont vu augmenter ceux qui utilisent les applications de 10 à 11% leurs revenus. C'est le grand débat
mais
sur la croissance.
Mais comment ça?
Tout simplement parce que les conseils qu'on te donne, le fait qu'ils savent par exemple le prix qui est pratiqué sur les places de marché quand ils ont leur récolte, et ils ne vont pas là où il y a déjà beaucoup de leurs collègues qui ont amené des produits qui sont en abondance sur une place de marché, il vaut mieux aller vendre ailleurs. Ces renseignements de base, rendus accessibles, ces services de base, grâce au numérique, transforme profondément. Et derrière, il y a des croissances de revenus. Donc voilà, c'est un message très fort que je partage avec vous. Orange ne le fait pas tout seul. Il le fait en partenariat avec des start-up. Il y a des multiples exemples de start-up qui ont inventé des choses absolument formidables. Mais Orange, le numérique, pas qu'Orange d'ailleurs, les autres compétiteurs d'Orange le font aussi, rend un service absolument extraordinaire. Ces nouveaux services qui permettent aux populations, et notamment en zone rurale, de voir effectivement, grâce au numérique, leur vie quotidienne profondément changer.
Vous parliez des start-up. Moi, je pense bien sûr aux start-up africaines. Votre groupe a la réputation de voir tout contrôler, parfois souvent, de vouloir s'assurer la part du lion. C'est pas toujours évident de travailler avec Orange.
Écoutez, c'est un jugement assez sévère et vous m'autoriserez à ne pas le partager. D'abord, ce qui caractérise Orange, c'est qu'il est un opérateur qui s'est massivement engagé dans le soutien aux start-up et ça, c'est reconnu et c'est ce qu'elles me disent à l'occasion. Je ne vais pas multiplier les témoignages, mais quand même. Le prix de l'entrepreneur social, plusieurs milliers de dossiers déposés chaque année. Depuis sa création, plusieurs dizaines de start-up innovantes accompagnées et tournées vers le service à la population. Orange présente dans des incubateurs, dans beaucoup de pays, dans des Fab Labs, on développe les... Donc, l'image que j'ai, les rencontres que j'ai, ne sont pas celles-ci. En même temps, quand Orange décide d'engager sa responsabilité à travers un applicatif qu'il apporte à ses clients, c'est vrai qu'il est exigeant sur la qualité du service, sur sa régularité, et que parfois, des start-up qui sont dans une phase de développement initiale n'ont pas forcément vu tous les enjeux. Mais sur la contribution d'Orange au développement des start-up et de l'écosystème, vraiment, je vous invite à comparer ce que nous faisons, notre présence, le nombre de start-up que nous avons accompagnés à travers les différents dispositifs que je n'ai pas le temps d'évoquer, à travers la décision de Stéphane Richard de créer un fonds d'investissement doté de 50 millions d'euros dédiés à l'Afrique pour passer évidemment accompagner les start-up qui réussissent vers le processus de développement qu'elles ont. Quand on met des sommes pareilles sur la table, et pas d'autres, aucun autre opérateur ne le fait, c'est qu'on a une conviction très forte.
Bruno Mettling, vous êtes le patron d'Orange Afrique et vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Bruno Mettling, vous évoluez sur un continent qui connaît bien des crises. En Somalie, par exemple, la sécheresse fait toujours des ravages. La dernière saison des pluies a été décevante et les Somaliens subissent une nouvelle période sèche. Dans la région du Puntland, 1 200 000 personnes sont touchées par la crise, soit plus d'un quart de la population. 380 000 sont en insécurité alimentaire et 135 000 ont été déplacés depuis le mois de janvier dernier. Alors pour leur venir en aide, les humanitaires utilisent plusieurs méthodes. L'une des principales, c'est le cash transfer, la distribution d'argent par téléphone portable. C'est un reportage signé Sébastien Lemaitre, envoyé spécial de RFI.
Le téléphone de Hamdi Farah sonne, un SMS l'avertit que 101 dollars viennent d'être versés sur son compte bancaire ce mois-ci. Tout comme 150 familles du camp de déplacés de Khairdoun dans le centre du Puntland, elles bénéficient du programme de cash transfert mis en place par Save the Children.
Nous sommes 8 personnes. Avec ça, je peux acheter 12 kilos de riz, de sucre et de farine. Je peux trouver de l'eau et des médicaments. C'est mieux que de la nourriture gratuite. Je gère l'argent moi-même. J'ai par exemple remboursé des dettes et je pourrais emprunter à nouveau si besoin.
Au Puntland, 10 000 familles bénéficient de ce programme. Le montant alloué varie d'une région à l'autre selon le coût de la vie. Abdikafar El-Miangé est le responsable de Save the Children dans la province semi-autonome.
On choisit les plus vulnérables en concertation avec la communauté. Ils reçoivent des papiers d'identité et un téléphone. On leur ouvre un compte de transfert par mobile sur lequel on verse de l'argent grâce à des accords avec les opérateurs téléphoniques. C'est plus simple que d'organiser des distributions gratuites de denrées, et puis ça permet d'atteindre n'importe qui, n'importe où. Les télécommunications se sont bien développées, les taxes ne sont pas trop lourdes et il y a beaucoup d'innovations. Dans tous les villages, des gens ont des portables et des comptes de transfert d'argent. Beaucoup de commerces les utilisent. Si vous et moi allions boire un verre, je pourrais par exemple payer avec mon téléphone. C'est aussi une conséquence du manque d'infrastructures et de banques stables, car avec la faiblesse de l'État, beaucoup de fausses monnaies s'étaient mises à circuler et cela empoisonnait le système.
C'était un reportage de Sébastien Nemeth. Ça vous parle? En tout cas, ça semble vous inspirer des notes, puisque je vous voyais prendre moult notes au Nometling.
Non, parce que votre reporter et le témoignage qu'il a recueilli résument mieux que je ne pourrais le faire toute la réalité, y compris dans les situations de détresse, de souffrance les plus grandes, tout l'apport qui peut être celui du téléphone mobile et la place qu'il prend en Afrique, dans cette interface. Et je relève deux choses, c'est cette phrase très forte, on leur donne une carte d'identité, un papier d'identité à ceux qui ont tout perdu, et un mobile. Et grâce au mobile, on peut transférer de l'argent et on leur redonne de l'autonomie pour qu'ils puissent se subvenir à leurs besoins alimentaires. Donc voilà, je parlais d'inclusion africaine, je parlais de réalité du développement, tout est dit à travers ce reportage, et on voit bien comment la responsabilité des opérateurs en Afrique est considérable par rapport à ses besoins des populations. Un Africain sur deux, n'oublions pas, un mobile, quand ils sont 1 sur 3, voire 1 sur 4, à avoir accès à l'électricité et à l'eau potable. C'est ça la réalité, et c'est pour ça que c'est un enjeu aussi important.
Le mobile, c'est un vecteur de développement.
C'est non seulement un vecteur de développement, mais ça devient ce que Stéphane Richard avait appelé à un moment donné, un interface avec la vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas la vie, bien sûr, mais il permet d'ouvrir considérablement, y compris aux populations les plus démunies, l'interface avec la vie, des services élémentaires, dans des conditions de sécurité bien plus satisfaisantes. Donc c'est un enjeu considérable.
Donc on parle de transfert d'argent par le mobile. Vous-même, Orange, vous êtes très présent, vous l'avez déjà évoqué sur ce créneau via votre plateforme de service Orange Monnaie. On sait qu'en France, vous avez lancé une banque d'ici la fin 2017, en principe, parce que ça a déjà été repoussé plusieurs fois. C'est dans les tuyaux? Enfin, vous y pensez aussi pour l'Afrique, une banque Orange pour l'Afrique?
Alors d'abord, il faut rappeler que la banque sur mobile, en tout cas le paiement des services financiers sur mobile, c'est l'Afrique qui a démarré. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est l'Afrique qui, 10 ans avant l'Europe, a mesuré toutes les potentialités dans les conditions qui sont celles de l'Afrique, et notamment évidemment du faible taux de bancarisation. Donc la réalité, c'est que ce n'est pas l'Afrique qui va copier l'Europe, c'est l'Afrique qui a démontré l'importance, la sécurité, la qualité de cet outil-là. Ça, c'est le premier message. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, on a 30 millions de clients d'Orange Monnaie, dont, je disais tout à l'heure, une dizaine de millions de clients actifs.
Quels sont les volumes financiers à peu près échangés?
Oh, c'est énorme, puisque en gros, au mois de décembre, qui est un mois particulier, il y a eu plus d'1 milliard d'euros de transactions, que sur l'ensemble de l'année, c'est un autre milliard de nombre de transactions, donc les chiffres sont absolument considérables, et qui montrent bien la place que le paiement sur mobile a pris dans la vie. Alors évidemment, les gens nous demandent de nouveaux services. Traditionnellement, c'était je dépose de l'argent ou je retire de l'argent grâce à mon paiement sur mobile, je transfère de l'argent à quelqu'un à distance grâce au mobile, et les gens nous disent, et c'est, il a été fait allusion dans le reportage aussi, mais pourquoi grâce au mobile vous ne délivreriez pas ce qu'on appelle des microcrédits, voire des picocrédits, un petit peu d'aide à l'épargne.
Un picocrédit?
C'est un tout petit crédit.
Hein. Encore plus
faible, c'est quelques euros quand on parle pour le microcrédit, plutôt en zone d'euros. Et puis un petit peu d'épargne, voire des produits d'assurance élémentaire, comme l'ont fait un certain nombre d'opérateurs. Et c'est une réflexion que Stéphane Richard a souhaité que nous conduisions pour pouvoir faire évoluer effectivement en Afrique notre service du transfert de la gestion de cash vers ce rôle de microcrédit, picocrédit, de crédit d'épargne et
donc
de
crédit de banquier.
Donc d'un certain nombre de services de banquier.
Et
on n'a pas vocation à être une banque d'entreprise. On n'a pas vocation à faire des grandes opérations sophistiquées sur les marchés financiers. C'est pas notre rôle. Par contre, le service à la population, qui est notre point commun, doit nous conduire à délivrer ce type de service le plus rapidement possible.
Donc avec une licence bancaire.
Donc, sans doute, alors je ne vais pas rentrer pour vos spécialistes, on a soit la licence bancaire, soit des statuts d'instituts monétaires et financiers qui permettent de livrer ce genre de service, mais en tout état de cause, effectivement, ça suppose une évolution de notre statut par rapport à la situation d'aujourd'hui.
Julien Clémenceau.
En mars, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, vous avez interdit d'effectuer des transferts d'argent entre la France et les pays de l'UMOA, ce que vous aviez commencé à faire, en indiquant que vous n'aviez pas le bon agrément. Est-ce que vous pensez pouvoir reprendre ces services ou est-ce qu'on en est?
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a eu par rapport au lancement de ce service, les exigences que nous font des autorités centrales, réunies collégialement, on considérait que les conditions de ce qu'on avait pu comprendre dans l'interface avec chacune des autorités dans les pays n'étaient pas réunies. Donc évidemment, on s'est mis au travail. Évidemment, nous n'avons pas cessé de discuter avec les autorités depuis. Et nous avons encore une session de travail en septembre. Et nous avons très bon espoir que ce service reprenne rapidement.
Avant la fin d'année.
En tout cas, c'est l'espoir que nous formulons. Encore une fois, nous sommes deux parties à décider. Nous avons des sessions de travail très importantes. Nous avons satisfait, je le crois, en tout cas beaucoup travaillé pour satisfaire à toutes les attentes. Parce que derrière, il y a quoi? Et si les autorités, je veux le dire ici, qui sont dans leur rôle de protection, évidemment, des conditions de départ, des conditions de fonctionnement d'ensemble, ils sont elles-mêmes extrêmement sensibles. Il y a les conditions de facilitation de la vie au quotidien, des transferts d'argent, mais c'est le transfert international. Je rappelle que le transfert à l'intérieur de la zone n'ont pas été affectés par ces décisions. Et donc, c'est pas négligeable, mais c'est un service tout à fait nouveau. Le cœur du service de transfert continue à être offert massivement aux populations au sein de la zone.
Qui est-ce qui négocie avec la BOAC? C'est les équipes parisiennes ou sont les équipes?
C'est un travail qui se fait à la fois sur le terrain, en liaison avec les pays, et puis l'OMR. Vous savez, de plus en plus. Et c'est la conception vraiment que j'ai du fonctionnement d'Orange. C'est pas à Paris que l'on pilote les activités. C'est pas vrai. C'est pas à Paris que se gagne la bataille. C'est dans chacun de nos pays. Donc, il faut à la fois que dans la proximité, mais dans un cadre cohérent, parce que là, on est sur une zone, j'allais dire, entre tous les pays, que Paris, et c'est son rôle, coordonne l'expression, prenne les engagements, mais au nom des pays. Jamais des engagements qui seraient déclinés à Paris, qui n'engageraient pas profondément chacun de nos responsables dans les pays.
Tout à l'heure, vous faisiez état des importantes taxes qui vous sont demandées par les États et du fait que ça pouvait entraver le développement du groupe et le développement des services. Mais est-ce que, dans vos relations avec les États, il vous arrive de taper du poing sur la table, M. Mettling?
Bon, mon tempérament, je crois que vous l'avez compris, est plutôt du dialogue, de la recherche du consensus, c'est comme ça qu'on marche. Vous savez, quand on a la responsabilité qui sont celles des chefs d'État et des dirigeants des autorités dans ces pays, on évite que d'une compagnie internationale de taper le poing sur la table. Simplement, de temps en temps, il faut mettre de l'énergie dans le partage de ses convictions. La situation de la fiscalité auquel les opérateurs sont confrontés dans un certain pays était tout simplement devenu déraisonnable.
Les éléments... Où dans quel pays?
Oh ben, c'est un secret pour personne que, par exemple, au Niger, je veux en remercier vraiment profondément les autorités, en commençant par son Excellence le Président de la République et le Premier ministre et le Ministre des Finances, qui ont mis beaucoup d'autorité dans cette renégociation-là. Le cadre était tout ça devenu impossible pour les trois opérateurs.
C'est-à-dire, quelle était votre situation?
La situation, grosso modo, pour la résumer, c'est que quand on avait un France CFA de revenus, on avait plus de 50 centimes qui étaient prélevés sous forme de taxes. Ça veut dire qu'on avait une situation absurde où on n'était absolument plus capable de dégager, ne serait-ce que de quoi assurer l'exploitation normale de notre réseau. Et on devait faire des augmentations de capital uniquement pour payer les impôts. Donc, par rapport à la zone dont j'ai la responsabilité, par rapport aux pays comme le Mali, par exemple, qui ont une autre politique fiscale, je n'étais plus en responsabilité de demander, j'allais dire, des efforts qui, quelque part, Orange, Middle East, Africa, c'est le fruit, évidemment, de ce que nous faisons dans l'ensemble des pays de la zone. Il n'était plus raisonnable d'envisager, j'allais dire, de tels niveaux de prélèvement. Ce qui est très, très encourageant, c'est que par rapport à la situation, y compris d'il y a 2-3 ans, le dialogue avec les autorités du Niger a permis de reposer un cadre fiscal beaucoup plus raisonnable qui permet aux opérateurs de reprendre leur investissement. C'est ça qui est important. Il y a des niveaux auxquels on est confrontés qui ne sont pas raisonnables. Pourquoi? C'est toujours le même problème. Vous le savez, qu'on concentre sur le secteur formel les besoins considérables des finances publiques, qu'un large secteur échappe à tout impôt, mais qu'il est un niveau de prélèvement, notamment sur les acteurs des télécoms, à travers la fiscalité spécifique, qui était devenu contre-productif. Et à l'inverse, je le redis, d'autres pays, je passe par exemple à la Côte d'Ivoire ou au Mali, ont fait le pari du taux d'impôt moins important, de ne pas taxer le secteur de manière excessive, de ne pas frapper les smartphones de niveau de droits de douane aberrants. Et moyennant quoi, le développement d'activités qui est là dans ces pays a rapporté au total beaucoup plus d'argent aux autorités. Donc j'y mets de la passion parce que c'était quand on me demande qu'est-ce qui peut freiner le développement numérique de l'Afrique. Qu'est-ce qui fait que, pour reprendre le président Ouattara qui avait dit on a raté en Afrique les deux premières révolutions industrielles, il faut réussir la révolution du numérique. Ce qui peut empêcher le succès de la révolution numérique alors qu'il y a des tas d'atouts, c'est deux choses. C'est des niveaux de fiscalité déraisonnables qui asphyxient les acteurs économiques qui sont chargés du numérique. Et le deuxième, c'est qu'on ne développe pas assez les compétences sur place dont l'Afrique a besoin pour ne pas vivre, encore une fois, l'importation de produits et services fabriqués ailleurs sur le territoire.
On comprend que vous avez eu gain de cause au Niger auprès du président Issoufou. Ça veut dire que de 50 centimes sur le CFA, vous êtes passé à combien?
On va passer à 28 centimes.
C'est beaucoup comme baisse.
C'est une baisse très importante, mais je vous le redis ici, j'ai pris date avec les autorités du pays. La reprise de l'activité, le développement du secteur va faire qu'à l'arrivée, en termes d'argent public, de fonds publics, ils retoucheront plus que ce qu'il y avait aujourd'hui quand tous les opérateurs avaient arrêté leurs investissements et quand le taux de pénétration du mobile au Niger était bloqué par la situation antérieure.
Alors on approche de la fin de l'émission, Bruno Metting. Sur le continent, Orange, vous l'avez signalé, c'est aussi un employeur de premier plan avec plus de 20 000 salariés. Est-ce que ces salariés ont le droit de se syndiquer? Est-ce qu'ils ont le droit à la parole? Est-ce qu'ils profitent de par leur rémunération de la réussite que vous avez signalée?
Alors permettez-moi d'abord de dire, il y a 20 000 salariés d'Orange, mais au total il y a 100 000 emplois indirects, notamment ce réseau des revendeurs dont je parlais, qui évidemment doivent à Orange leur activité au quotidien. Donc c'est un enjeu extrêmement important Orange dans ces pays. Sur les droits des salariés, vous savez que j'étais le DRH de ce groupe, que j'ai une tradition, y compris personnelle, qui me fait dire qu'il n'y a pas de performance économique durable sans performance sociale. Donc oui, les salariés ont droit évidemment aux pratiques sociales les plus avancées. Nous sommes le seul opérateur de téléphonie qui accepte que soit audité chaque année dans tous les pays où nous sommes présents en Afrique ces processus sociaux. Et le dernier message que je veux délivrer, c'est qu'il y a des droits qui ont été garantis à tous les salariés d'Orange en Afrique, quel que soit le pays, quel que soit les droits, notamment en matière de santé, grâce à un accord monde que nous avons signé avec les organisations syndicales. Et c'est pour ça qu'Orange a la réputation, évidemment, d'être un employeur, y compris sur le plan humain, dans son fonctionnement interne, tout à fait respectable.
Merci Bruno Metling d'avoir accepté l'invitation de RFI et de Jeune Afrique. Cette émission est maintenant terminée. Guillaume Munier l'a réalisée, la mise en onde et mise en image, puisque nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine maintenant pour de nouvelles aventures économiques, toujours sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs. À bientôt.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.